Bonjour. Jacques Salomé compare la relation entre deux personnes à une écharpe dont chacun tient un bout. Chacun est responsable de son bout d'écharpe, de ce qu'il dit et fait en relation avec l'autre. Nous avons vu comment être bien en relation avec soi pour être conscient de ce qui nous habite, nos besoins insatisfaits, et pouvoir l'exprimer à l'autre sans utiliser des jeux de culpabilisation. À présent, nous allons accueillir ce que vit l'autre sans se laisser parasiter émotionnellement ni tomber dans le piège de la culpabilité ou l'agressivité. Maintenant que nous avons appris à nous écouter avec bienveillance, nous allons de même écouter l'autre avec bienveillance. Le psychologue américain Elias Porter distingue 6 manières d'écouter qui sont évaluer, questionner, soutenir, solutionner, interpréter, et écouter avec empathie. Commençons par comprendre le fonctionnement des 5 premières attitudes et nous verrons ensuite ce que représente l'écoute active ou écoute empathique. Pour que cela soit plus concret, prenons un exemple. Vous avez une personne de votre famille sur Skype qui s'effondre en larmes en disant « Je n'en peux plus du confinement, je ne supporte plus d'être seule, de ne pas pouvoir sortir, combien de temps cela va durer ?» À chaque fois, ils reculent et restreignent le déconfinement. Que répondriez-vous? Je vous laisse exprimer oralement ou mentalement votre réponse. Voyons la première attitude de Porter, juger ou évaluer. Mais tu ne devrais pas te mettre dans cet état, tout le monde est dans le même bateau. Cela ne sert à rien de pleurer, on n'a pas le choix. Lorsque l'on juge ou moralise, l'intention est de secouer la personne pour qu'elle modifie son comportement en adaptant un comportement jugé plus adéquat. C'est se positionner inconsciemment au-dessus de la personne en décrétant c'est bien ou c'est mal. Le plus gros risque est de se tromper dans notre jugement, car rappelez-vous que vos jugements viennent de votre sac à dos et personne n'a le même. Ce qui fait que ce qui est bon pour moi ne l'est pas nécessairement pour l'autre. La personne va donc se sentir incomprise, infantilisée ou culpabilisée. 3 émotions qui ne vont pas arranger son état actuel. Deuxième attitude, questionner. Est-ce que tu te nourris bien? Combien de temps dors-tu? Pourquoi dis-tu qu'ils reculent et restreignent le confinement? Tu l'as entendu aux infos? Le questionnement permet d'obtenir des informations plus complètes de la situation. Il peut montrer notre volonté à comprendre ou cerner le problème, mais risque de paraître intrusif ou inquisitoire. Donner l'impression que l'on mène l'enquête, que l'on a besoin de preuves qui justifient le ressenti ou pas. Le piège est que le questionnement est souvent suivi du jugement ou du conseil. Tu vois ? Si tu te nourrissais correctement au moins, tu serais déjà plus en forme. Cela introduit notre troisième attitude tellement répandue. Conseiller, solutionner. Bon, écoute, tu vas arrêter de regarder les informations toute la journée et tu vas bouger. Tu peux sortir 1 heure par jour. Même si tu ne parles à personne, cela te fera du bien, tu verras. Nous sommes persuadés que si quelqu'un nous raconte une situation difficile qu'il vit, c'est qu'il veut que nous lui trouvions des solutions. À tel point que pendant qu'il parle, on ne l'écoute pas car on est déjà dans la recherche de solutions. C'est une erreur, sauf si la personne nous demande « Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je t'appelle car je sais que tu es de bons conseils. » Mais là encore, je devrais me contenter de répondre « Qu'est-ce qui là tout de suite pourrait te faire du bien ? Toi seul sais ce qui est bon pour toi. » Nous sommes sans aucun doute notre meilleur conseiller. Personne ne sait mieux que nous-mêmes ce que nous ressentons et donc ce qui pourrait nous apaiser. Vous avez peut-être déjà vécu la situation suivante, en dehors d'une période de confinement bien sûr, où en rentrant du travail vous dites à votre conjoint « Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée, j'ai mal à la tête » et il vous répond « T'as été voir le médecin ?» Je ne sais pas vous, mais moi cela m'horripile. Je ne suis pas stupide, je sais que je peux aller voir le médecin si je me sens malade. Mais là, j'ai juste besoin d'attention compréhensive, mais surtout pas de solution. Personnellement, je dois lutter contre moi-même lorsque mes enfants m'appellent et qu'ils me racontent une situation difficile pour ne pas tomber tout de suite dans le conseil. C'est vraiment très tentant de reprendre sa casquette de parent sauveur. Quatrième attitude, soutenir, consoler ou minimiser. Ma pauvre, tu n'as pas de chance d'être seule, mais tu es entourée. Il y a des personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne, toi au moins. Quand tu veux parler, tu peux. Ou bien, si on parlait de choses plus gaies, il faut que je te raconte le fou rire que j'ai pris ce matin, etc. L'intention derrière cette attitude est de stopper l'émotion négative de la personne en face, de lui montrer que ce n'est pas si grave, de faire en sorte qu'elle sourie à nouveau, qu'elle se distrait. Car c'est difficile pour nous de voir la personne souffrir. Cela me rappelle lorsqu'un petit enfant tombe et hurle, nous lui disons « Ne pleure pas, c'est rien du tout, regarde, cela ne saigne même pas. » Ou bien « Regarde le joli papillon, oh, trop tard, il vient de s'envoler. » Le problème est que l'enfant va enregistrer une chose, « Quand tu souffres, fais comme si cela allait bien, souris. » et adopter la stratégie de nier ses émotions négatives, ce qui n'est pas bon pour son épanouissement. Cinquième attitude, interpréter. En fait, tu craques parce que tu pensais que cela n'allait durer que 30 jours max. Tu t'attendais pas à cela. Cette attitude est de chercher le sens de ce qui est dit en fonction de ce qui vous paraît essentiel, au risque de dénaturer le vécu de la personne. L'interprétation souvent inconsciente plaque notre vérité sur le ressenti de l'autre, l'objectif étant de montrer que l'on comprend bien le problème. Malheureusement, très souvent, nous sommes à côté de la plaque, et cela peut agacer vraiment la personne concernée. Proche de l'interprétation, nous avons aussi toutes les comparaisons, qui sont très courantes. Tout le monde se plaint. J'ai eu ma sœur hier, elle est dans le même état que toi. Mais elle, elle n'en peut plus de gérer trop de monde chez elle, mari, enfants, petits-enfants. Elle sature et rêve d'être seule. Le piège est qu'en comparant à une autre situation, je veux prouver ma légitimité à bien comprendre le problème. Mais en fait, je monopolise la parole et la personne qui avait besoin d'être écoutée se retrouve à m'écouter. On inverse les rôles. En résumé, si l'on ne peut pas juger, questionner, solutionner, interpréter ou consoler, qu'est-ce qu'on peut faire pour écouter quelqu'un? Nous arrivons à la sixième attitude, la plus appropriée pour écouter un vécu émotionnel, l'écoute active ou écoute empathique. Cette attitude est un concept développé à partir des travaux du psychologue américain Carl Rogers. Un proverbe chinois dit « Il y a 2 ans pour apprendre à parler, toute une vie pour apprendre à se taire. Écouter est avant tout se taire tout en restant disponible à l'autre par le regard, les accusés de réception non-verbaux comme le sourire, le mouvement de tête ou par des onomatopées. Ah oui. Ces dernières sont très importantes au téléphone car sans elles, il nous est tous arrivé de nous arrêter de parler en demandant « Tu es toujours là ?» Cette écoute bienveillante a pour but de montrer à l'autre que l'on est totalement disponible à accueillir ce qu'il a à dire sans aucune réticence. Il se sent alors libre d'exprimer pleinement son ressenti. Rappelez-vous qu'une émotion extériorisée ne laissera pas de traces, alors que celle qui est niée, jugée ou réprimée parasitera le bien-être et la relation. Il est donc essentiel de ne pas couper la parole et de ne pas vouloir résoudre rapidement le problème. Une fois que j'ai écouté, j'ai 2 possibilités pour reprendre la parole, le zoom et la reformulation. Le zoom permet de relancer la parole en relevant un mot ou en demandant ce que cela signifie. Qu'entends-tu par restreindre le confinement? Ou bien, que veux-tu dire par « je n'en peux plus » ? L'objectif n'est pas de mieux cerner le problème, mais de suivre le cheminement de la pensée ou de l'émotion de la personne. La reformulation est d'être comme un miroir qui renvoie à l'autre le reflet de ce qu'il vit, afin que celui-ci puisse prendre du recul et puisse se sentir pleinement accueilli. Tu ne supportes plus d'être seul et tu as l'impression que le déconfinement est en permanence remis en question. C'est cela ? Il est essentiel de reformuler sous forme de questions fermées pour que la personne puisse se positionner par rapport à ce que vous dites. Oui, c'est comme si tu courais et que l'on reculait la ligne d'arrivée quand tu t'approches d'elle. C'est cruel, non? Ou bien, Non, ce n'est pas que je ne supporte plus d'être seule, mais c'est juste que j'ai besoin d'avoir une date de fin pour me projeter dans des projets positifs. Lorsque l'on renvoie à la personne ce qu'elle vient d'exprimer, elle peut voir la situation avec un autre point de vue, prendre de la distance et ainsi mettre des mots plus justes sur ce qui la touche vraiment. Et ainsi, elle va pouvoir elle-même trouver sa solution ou simplement être apaisée parce qu'elle a été écoutée. Je me rappelle d'un Italien que j'avais formé à Barcelone et qui me disait tous les dimanches soirs « Ma mère m'appelle et se plaint au téléphone ». Et je lui dis « Maman, mais arrête de te plaindre, va voir le médecin, appelle tes cousins et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à Barcelone, je ne peux pas venir te voir ». Il me précisait qu'à chaque fois, il raccrochait en s'énervant parce qu'elle continuait de se plaindre. Une fois qu'on a vu l'écoute active, je lui ai proposé de se servir de cet outil pour le prochain coup de fil de sa maman. Et il est revenu avec beaucoup d'émotion. Il nous a raconté qu'il s'était positionné à écouter simplement sa maman et à reformuler tout ce qu'elle exprimait comme souffrance, sans la contredire. Et pour la première fois, sa maman s'est arrêtée et lui a dit « Merci, je te remercie de m'avoir aidée ». Et il a résumé la situation en disant « La seule fois où je n'ai pas essayé de solutionner les problèmes de ma maman, eh bien c'est la seule fois où je l'ai vraiment aidée et qu'elle m'a remerciée. J'ai vraiment eu l'impression que c'était la première fois où j'ai pu transmettre mon amour grâce à l'écoute active et qu'elle l'a reçue pleinement. » L'écoute active est le cadeau le plus précieux que vous pouvez faire aux personnes qui vous sont proches. Offrir son temps et son attention pour permettre une communication vraie et profonde. Merci à vous pour votre écoute et à demain.